Chapitre 9. Trois maximes qui valent de l'or. Lavinia suivit sa sœur, presque aussi effrayée qu'elle, et sœur Sedley, oubliant toutes ses gentillesses pour n'écouter que sa sensibilité, s'empressa de l'accompagner. Camilla voulait aller sur le champ à Clèves, elle n'examinait pas comment. Elle avançait le plus vite qu'elle pouvait, persuadée qu'elle pourrait arriver à pied en 10 minutes, et s'écriant par intervalle « Mon oncle, mon cher oncle !» Elles aperçurent presque au même moment Edgar qui, dans l'instant où le comédien les avait appelés, avait couru pour les rencontrer et qui, les voyant pourvues chacune d'un bras, leur offrit de faire avancer la voiture. Camilla répondit en sanglotant qu'elle n'avait point de voiture et qu'elle irait à pied. « À pied » répéta-t-il, « vous avez près de 5 000 d'ici à Clèves. » Se possédant à peine, elle continua de marcher sans répondre. « Dans quelle voiture êtes-vous venue, Miss Tyrold ?» dit Edgar à Lavinia. « Nous sommes venus avec Miss Rizalberry. »« Miss Rizalberry, il y a une demi-heure qu'elle est partie. Je l'ai rencontrée en entrant. » Camilla était déjà hors de la salle, toujours conduite par le major. « Si vous n'avez pas de voiture à votre disposition, » dit Edgar, « veuillez bien vous servir de la mienne. »« Oh, volontiers, avec grand plaisir !» dit Camilla d'une voix entrecoupée. Il courut alors pour faire venir sa voiture. En ce moment, Jacob parut. « Ah, Jacob !» cria Camilla, quittant brusquement le major. « Dis-moi, dis-moi, mon oncle, mon cher oncle !» Jacob, avec l'accent d'une profonde douleur, dit que son maître avait une attaque de goutte dans l'estomac et que le médecin, qu'on avait fait venir sur le champ, avouait qu'il tremblait pour sa vie. Elle ne put en entendre davantage. Accablée de ce coup, elle tomba sans connaissance entre les bras de sa sœur. Au bout d'une minute, elle reprit ses sens. Edgar la conduisit à la voiture, dans laquelle il se plaça lui-même entre les deux sœurs, en disant aux deux messieurs qui les avaient accompagnés que la liaison intime qui l'unissait à toute cette famille l'autorisait à leur offrir, dans cette occasion, ses soins et son assistance. Ce fait était trop connu pour être mis en doute. Sœur Sedley et le major, avec beaucoup d'intérêt, firent des vœux pour elle et se retirèrent. Jacob avait déjà couru prévenir M. Tyrold, qui, sur le champ, était monté à cheval. Camilla ne prononça pas un mot pendant le premier mille. Elle ne fit que sangloter d'une manière convulsive. Puis, s'appuyant sur l'épaule de sa sœur, « Ah, Lavinia !» lui dit-elle, « si nous allions perdre mon oncle !» Elle inonda de ses pleurs le cou de Lavinia, qui pleurait aussi, quoiqu'avec moins de violence, parce qu'elle avait eu moins de rapport avec Sir Hugues et qu'elle avait naturellement moins de sensibilité. Camilla criait elle-même au postillon d'aller plus vite. Elle engageait Edgar à le presser, et quoiqu'il en donnât l'ordre le plus positif, elle le pria 20 fois de la laisser descendre, persuadée qu'elle irait plus vite à pied que les chevaux au galop. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte du parc, on eut de la peine à l'empêcher d'ouvrir la portière. Et lorsqu'enfin on fut à la porte de la maison, elle ne put attendre qu'on l'ouvrit. Avant qu'Edgar pût l'apercevoir ni l'empêcher, elle se jeta dans les bras de Jacob, qui, venant justement de descendre de cheval, se trouva là tout à propos pour l'empêcher de tomber. Elle ne s'arrêta point à faire des questions. « Mon oncle, mon oncle !» s'écriait-elle impétueusement. Et, poussant tout ce qu'elle rencontrait, elle fut en un instant à la chambre du malade. Eugénia, qui l'avait entendu marcher, la reçut à la porte. Mais elle l'emmena sur le champ, hors de la chambre, lui disant tout bas en l'embrassant « Il n'en mourra pas, ma sœur, il n'en mourra pas. Le danger est passé. Il dort à présent. Sa vie est sauvée. » Cette joie fut trop subite pour Camilla. Elle perdit aussitôt la respiration et serait tombée sur le parquet si, dans le moment, elle n'eût été soutenue par Edgar, qui, quoique ses yeux exprimassent la vive joie qu'il ressentait de ces bonnes nouvelles, eut assez de force et de présence d'esprit pour la transporter dans le salon. Eugénia l'accompagna. Là, rappelée à elle-même, à l'aide d'une eau spiritueuse, et sans faire aucune attention à Mandelbert, elle se jeta à genoux pour rendre à Dieu de vives actions de grâce. Eugénia s'y joignit avec autant de piété, mais avec un peu moins d'émotion. Edgar ne l'avait encore jamais vue sous un aspect si brillant. « Ah !» se disait-il, « quelle sensibilité, quelle tendresse, quelle vivacité, quel cœur s'il était possible de le toucher !» Les deux sœurs montèrent doucement l'escalier, s'encourageant et se félicitant l'une l'autre. Elles s'établirent dans une autre chambre, M. Thayrold, par le conseil du médecin, ayant ordonné que personne autre que lui n'entrât dans la chambre du malade. Edgar ne put se résoudre à quitter la maison avant 2 heures du matin, et dès 6 heures, son inquiétude l'y ramena. Il apprit alors que la nuit avait été plus pénible que dangereuse, la goutte ayant quitté l'estomac, quoiqu'elle eût menacé presque toutes les autres parties. 3 jours et 3 nuits se passèrent ainsi. Pendant ce temps, Edgar eut tant d'occasions d'admirer la tendre sensibilité de Camilla que rien n'aurait pu l'empêcher de manifester l'impression qu'elle lui faisait, s'il eût pu s'expliquer comment elle était sortie tout à coup, accompagnée par le major, d'une loge où elle s'était tenue cachée, sans avoir aucune femme avec elle. Pendant ce temps, Miss Margland faisait la mine, Indiana boudait, mais il n'y faisait aucune attention. Son tendre attachement pour Sir Hugh surmontait tous les obstacles qu'elle aurait voulu mettre à ses visites à Clèves. Il y passait presque tout son temps. Le 4e jour de sa maladie, Sir Hugh eut un sommeil de 5 heures consécutives qui lui fit tant de bien qu'il s'assit sur son lit et dit « Mon cher frère, vous êtes encore ici. Vous êtes trop bon pour moi, pauvre pécheur que je suis, après tout le mal que j'ai fait à vos enfants. Cher frère, mes enfants, ainsi que moi, n'ont reçu de vous que des témoignages de bonté, de bienveillance et ne vous doivent, comme moi, que de la reconnaissance et de l'attachement. » « Ils sont bien bons, » dit Sir Hugh avec un soupir. « Mais Eugénia, pauvre petite Eugénia, elle a pensé me faire mourir, sans le vouloir pourtant, car elle est douce comme un agneau. » M. Thayrold l'assura qu'Eugénia le chérissait. Mais Sir Hugh lui répondit que, lorsqu'il avait vu revenir d'Esserington, presque aussi triste qu'elle y était allée, il avait été blessé jusqu'au fond du cœur de l'idée qu'elle ne se relèverait jamais de son chagrin, que, de ce moment, sa conscience n'avait cessé de le tourmenter jusqu'à ce que la goutte l'eût prise à l'estomac, avec un assez grand danger à ce qui paraissait. M. Thayrold n'attribua qu'à l'imagination de son frère l'idée qu'il avait prise de la continuation du chagrin d'Eugénia. Il alla sur-le-champ la chercher, en l'avertissant de l'espèce de consolation qu'elle pouvait donner à son oncle. « Est-il possible, ô le meilleur des parents, lui dit-elle, que vous ayez un instant douté de la tendre affection dont votre bonté m'a pénétrée dès mon enfance? Mon cher oncle, rendez-moi, je vous prie, plus de justice. Rétablissez-vous de cette terrible attaque et vous verrez bientôt votre Eugénia jouir de tout le bonheur que vous pouvez lui souhaiter. » « Personne au monde n'a d'aussi bonne nièce que moi, » dit Sir Hugh dans une effusion de tendresse, « car personne n'a fait aux siennes autant de mal. La généreuse petite Camilla m'a pardonné dès l'enfance, avant que son âme fût en état de sentir aucune haine, ce qu'elle est encore grâce à Dieu. Cependant, je peux vous dire une chose qui vous empêchera de vous repentir de votre bonté, c'est que votre tendresse pour votre pauvre oncle est capable de lui sauver la vie. » Ce qui, pour une personne de votre âge, est ce que l'on peut souhaiter de plus flatteur. Je crois que je pourrais me rétablir si j'avais une fois l'assurance de vous voir heureuse comme vous l'étiez, car je vous ai vue la personne la plus contente du monde jusqu'à la rencontre de ces misérables femmes du marché, toujours occupées depuis l'âge de 8 ans à parler en faveur des pauvres et des domestiques, jamais vous ne me laissiez me fâcher. Vous preniez sans cesse le parti des autres, croyant tous les autres aussi bons que vous-même et ne désirant que leur bonheur. Oh, mon cher oncle, votre mémoire obligeante ne retient que ce qui peut vous plaire, elle oublie tout ce qui a pu vous faire de la peine. Mon oncle est-il assez bien pour parler ? Dit Camilla, ouvrant doucement la porte. Et pourrais-je le voir un seul instant ? C'est la voix de ma chère Camilla, dit Sir Hugh. « Entrez, mon cher ange, ma présence ne peut à présent vous faire mal, je vais mieux. » Camilla fut dans le moment au pied de son lit et lui dit avec un accent passionné « Mon cher oncle, nous serez-vous donc réellement rendu ?» Sir Hugh lui répondit en jetant ses faibles bras autour de son cou. « Oui, s'il plaît à Dieu, ma chère petite, le charme et la joie de mon cœur. Mais ne vous troublez pas quoi qu'il m'arrive. » car il est dans l'ordre de la nature qu'un homme meure même dans sa jeunesse, à plus forte raison dans un âge avancé, quoique vous ne puissiez, j'en suis persuadé, vous empêcher de me regretter, surtout au commencement, à cause de votre bonté pour moi. » Vous regrettez ? Oh, mon oncle, nous ne pouvons plus être heureuses sans vous. Jamais, jamais. Lorsque nous ne vous verrons plus nous sourire, lorsque votre douce voix ne nous rassemblera plus autour de vous. Ma chère enfant, ma bonne petite Camilla, cria Sir Hugues d'une voix faible, je suis prête à mourir. Monsieur Tyrol la fit sortir, et son frère devint si mal qu'il eut une dangereuse rechute. Et pendant 3 autres jours, le médecin, la garde et M. Tyrold eurent seuls la permission d'entrer dans sa chambre. Pendant ce temps, toute la famille était dans le plus grand chagrin. Camilla était inconsolable. Lorsqu'il fut mieux, il fit approcher de lui M. Tyrold et dit que cette seconde attaque lui prouvait qu'il n'avait que peu de temps à rester en ce monde. Il le pria de le préparer à en sortir. M. Tyrold y consentit et le trouva parfaitement résigné. Tranquillisé par les devoirs de la religion, il voulut voir Eugénia et Indiana afin de pouvoir leur donner ses dernières exhortations et ses conseils. M. Tyrold aurait désiré lui sauver cette scène douloureuse, mais il déclara qu'il ne mourrait pas avec une conscience tranquille, qu'il ne leur eût donné la vie auquel il avait pensé pour elle pendant tout le temps de sa maladie. M. Tyrold, craignant alors de lui nuire en le contrariant, fit monter sa plus jeune fille et sa nièce, en les invitant à réprimer leur affliction, afin de ne pas accélérer ce qu'elles redoutaient. Camilla, toujours au guet, se glissa doucement avec elle, supplia son père de ne pas l'empêcher d'entrer. Mais Sir Hugues, entendant ces instances, déclara qu'il ne voulait pas qu'on lui refusât rien, quoiqu'il se proposât de prendre congé d'elle séparément pour la dernière chose qu'il aurait à faire. Elle le remercia tendrement et s'avança tremblante à côté de son lit, promettant formellement à son père de ne donner aucun signe de douleur qui pût mettre encore en péril une vie si précieuse. Sir Hugues demanda qu'on fît venir aussi Lavinia, quoiqu'il n'eût pas le projet de lui rien dire, mais parce qu'elle pourrait, après sa mort, lui reprocher de l'avoir oubliée. Alors on le soutint avec des coussins. Elles se mirent toutes à genoux autour de son lit. M. Tyrold le pria d'être très court et demanda du petit auditoire le plus grand et le plus courageux silence. Il s'assit à quelque distance et Sir Hugues commença. « Mes chères nièces, je vous ai mandé pour un objet particulier que je vous prie d'écouter, parce que Dieu seul sait si je peux encore me retrouver en état de vous donner cet avis. Je vous vois toutes fort tristes et je vous en remercie. Cependant, ne pleurez pas, mes chères petites, car nous devons tous mourir. La mort, d'ailleurs, nous délivre de tout soin, comme mon frère vous l'expliquera mieux que moi. Le premier objet dont je vais vous parler et dont je me suis occupé pendant ma maladie est relatif à vous deux, mes chères Eugénia et Indiana, parce que, vous ayant élevé l'une et l'autre, je ne peux ôter de ma tête l'inquiétude de savoir ce que vous ferez lorsque je ne serai plus là pour vous défendre des projets des méchants. J'avais espéré de vous voir l'une et l'autre mariées, tandis que je vis et suis parmi vous, et j'ai fait pour y réussir autant de plans que ma pauvre tête en a pu concevoir. Mais nous avons tous été trompés. Ce que je dois à présent vous dire, mes chères petites, consiste en 3 maximes qui peuvent vous servir à toutes également, quoique je n'ai eu d'abord que vous deux en vue. En premier lieu, ne soyez jamais fières. Si vous l'êtes, vos supérieurs se moqueront de vous, vos égaux ne vous aimeront point, et les gens qui sont dans votre dépendance vous haïront. Et de quoi peuvent s'enorgueillir de pauvres mortels? De richesses? Hélas, elles ne sont qu'une charge. Et si nous n'en usons pas bien, nous pouvons porter envie aux pauvres mendiants qui ne répondent rien. De la beauté, nous ne pouvons ni nous la procurer quand elle nous manque, ni la garder quand nous l'avons. Du pouvoir, mais rarement l'employons-nous d'une façon sans regretter de ne l'avoir pas employé autrement. En second lieu, ne vous fiez jamais aux flatteurs. Un homme vous fait-il beaucoup de compliments? Soupçonnez-le toujours de quelque mauvais dessein et ne le croyez jamais votre ami jusqu'à ce qu'il vous reproche quelque défaut. Pauvres enfants, vous n'imaginez guère combien vous en avez, quelque bonne que vous soyez. En troisième lieu, ne faites point de mal aux autres pour quelque avantage qui puisse vous en revenir. parce que le bien ne durera pas longtemps et que le repentir vous suivra aussi longtemps que vous vivrez. Et ce qu'il y a de pire, beaucoup plus longtemps et plus qu'aucun almanach ne peut le calculer. À présent, mes chères nièces, voilà tout, si ce n'est que je veux recommander à ma chère Eugénia d'avoir des bontés pour mes pauvres domestiques qui m'ont tous bien servi, quoiqu'ils sussent que je n'avais rien à leur laisser. » Eugénia, suspendant ses sanglots, promit de les garder tout aussi longtemps qu'il voudrait rester avec elle et de les placer ensuite. « Je sais que vous n'oublierez jamais personne, ma chère petite fille, » dit le baronnet. « C'est ce qui me console de mourir. Pas même Miss Marland, car il ne faut pas, à la mort d'un homme, s'arrêter à de petites particularités. Et beaucoup moins le docteur Horborn, à qui vous avez bien plus d'obligations. Pour Indiana, elle aura sa petite fortune lorsqu'elle sera en âge, et j'ose dire que sa jolie figure la fera marier longtemps auparavant. À l'égard de Clermont, il sera bien dépourvu. Je ne lui laisse rien, mais vous le dédommagerez. Quant à Lionel, je lui laisse ma bénédiction. Je n'ai pu lui faire espérer d'autres legs. Je peux dire la même chose, hélas, à ma chère Lavinia. C'est la raison pour laquelle je l'ai fait venir, parce qu'elle peut n'avoir pas souvent occasion d'entendre un homme parler au lit de la mort. Tout ce que je désirerais serait de pouvoir vous laisser à chacune autant que je laisse à Eugénia, en lui donnant le tout. « Oh, mon cher oncle !» s'écria Eugénia, « faites sur le champ un nouveau testament, ordonnez tout ce que votre tendresse peut vous inspirer, ou dites-moi ce que je dois faire en votre nom, et chacun de vos désirs sera rempli, chacune de vos paroles sera sacrée pour moi. » « Chère, généreuse et noble fille, non, je ne veux pas vous ôter un seul shilling. Gardez tout. Personne ne l'emploierait si bien et je ne peux vous rendre votre beauté. Ainsi, ma chère, gardez tout pour l'acquis de ma conscience. Ne me faites pas mourir coupable. » La petite troupe fondait en larmes. M. Tyrold lui renouvela l'invitation de s'éloigner. « Ah, mon cher frère, dit Sir Hugh, vous auriez dû tout avoir sans ma pauvre cervelle qui m'a toujours fait agir tout de travers au lieu d'aller droit. Et dans la vérité, je m'étais toujours proposé de vous laisser ma fortune pour votre vie jusqu'au moment où la petite vérole vint tout effacer de ma pauvre tête. J'espère pourtant que vous ne refuserez pas de prêcher mon oraison funèbre malgré tous mes défauts, car personne ne parlerait de moi avec tant de bonté. » La leçon sera meilleure pour ceux que je laisse après moi. » M. Tyrold, en pleurant amèrement, employait tout ce qu'il pouvait trouver de plus touchant pour tranquilliser son frère, et les jeunes affligées, n'osant pas résister à ses ordres, s'en allèrent toutes, excepté Camilla, dont la main était pressée par celle de son oncle. « Ah, ma Camilla !» dit-il, comme elle voulait doucement la retirer. « Comment puis-je me séparer de ma chère petite bien-aimée ? C'est le coup le plus sensible pour moi, malgré toute ma tranquillité, car vous aimez autant votre pauvre oncle que s'il vous eût laissé tout ce qu'il avait. » « Oh, mon cher, très cher oncle !» s'écria Camilla, versant des flots de larmes. M. Tyrold, les assurant l'un et l'autre que cette effusion pouvait leur nuire, l'arracha du lit et l'emmena hors de la chambre. Fin du tome second.